être venu ici.
Moi, je commence.
Est-ce qu'on m'entend sans le micro? Ça va? Bien. Donc, non, mais je ne veux pas trop besoin de micro, c'est vous qui en avez besoin surtout. Juste pour gagner un petit peu de temps au cas où d'autres arrivants se profileraient, vous serez dans les couloirs, parce qu'il y a des problèmes sur la ligne 1 du métro, paraît-il. Nous avons mis, nous sommes une association, nous avons mis des bulletins d'adhésion au cas où certains d'entre vous, captivés par l'intérêt de cette conférence, qui n'a pas encore commencé, mais en tout cas à la fin, pourrait avoir envie de s'inscrire pour nous aider à organiser ce type de conférence et d'autres choses encore que dont vous pouvez trouver la trace sur le site de notre association. Voilà, ceci étant dit, je vais donc faire un peu les présentations et puis ensuite céder la parole à Jean Birnbaum. Alors, je vais d'abord remercier nos intervenants discutants, à savoir Richard Eichmann qui est donc à ma gauche, au fond de la table, au fond de ici, qui est anthropologue de la psychiatrie contemporaine, est-il mentionné sur Wikipédia. Et qui nous a déjà fait le plaisir de faire une conférence à une de nos précédentes assemblées générales. J'insiste beaucoup sur l'intérêt de son livre, qui, à mon avis, concerne bien au-delà des gens de justice, qui s'appelle L'Empire du traumatisme, qu'il a écrit avec Didier Fassin, et qui est un livre qui fait un peu l'histoire de l'évolution. Dans le monde entier d'ailleurs, enfin pas seulement du tout en France, de la montée en puissance des réclamations des victimes et des politiques publiques qui sont issues à la fois des nosographies qui sont différentes selon les pays, mais aussi des mouvements d'associations autour de la question des victimes. Voilà, mais ce qui nous intéressait surtout dans l'idée d'avoir Richard, indépendamment de l'amitié qu'on lui porte, c'est le fait qu'il soit anthropologue, puisqu'on va parler un tout petit peu des questions autour des différentes disciplines et sciences humaines susceptibles d'être intéressantes par rapport à la question du crime. Bon, à côté de lui, Denis Salas, que tout le monde ici connaît bien, qui est un vieux compagnon de route, mais il est beaucoup plus jeune que moi, mais qui continue à s'interroger, je le dis, avec intelligence et empathie sur ce que c'est que la criminologie et à quoi ça sert. Donc, ça crée des liens entre nous, c'est toujours des questions, mais des questions riches. Alors, j'en viens à Jean Birnbaum. À vrai dire, je ne sais pas comment expliquer autrement sa présence ici que par l'idée qu'en ayant lu son livre, il m'a paru absolument évident qu'il fallait le rencontrer. Alors, je ne sais pas ceux parmi vous qui l'ont lu ou pas lu. Ceux qui ne l'ont pas lu, je vous invite vraiment à le faire et j'imagine que notre débat vous donnera envie de le lire. Mais ça m'a paru rejoindre un certain nombre de questions qu'on se pose, nous, à l'association, depuis très longtemps. Et ça m'a paru surtout ce livre m'a paru avoir des qualités que je vais essayer d'évoquer très rapidement. Alors, je m'excuse auprès de ceux avec lesquels j'ai déjà fait l'exercice au cours d'un de nos conseils d'administration, mais je vais quand même lire la page qui, d'une certaine manière, amorce la question de savoir la criminologie dans tout ça. Donc le livre s'appelle Un silence religieux, la gauche face au djihadisme. Je précise que Jean Birnbaum m'avait fait remarquer dans un mail intermédiaire entre nous que j'avais pas précisé que le sous-titre La gauche face au djihadisme, je lui ai expliqué que comme j'essayais d'obtenir une salle de l'ENM, je voulais pas trop apparaître comme donnant la parole à quelqu'un qui avait peut-être un intérêt particulier pour la gauche, et donc pour rester impartial en tout cas au niveau des apparences, je ne l'avais pas souligné, mais ça apparaît bien sur le titre du livre. Alors, dans ce livre dont il vous parlera, pour ceux qui ne l'ont pas lu, il y a une page qui, évidemment, m'a beaucoup interpellé. Alors, on est sur les événements qui viennent de se produire en 2015, je résume, et je lis très vite cette page. À la télévision, comme dans les journaux, divers spécialistes se relayaient pour affirmer que les djihadistes avaient beau se réclamer du djihad, leurs actions ne devaient en aucun cas être reliées à quelque passion religieuse que ce fût. Barbares, énergumènes, psychopathes de points, tous les qualificatifs étaient bons pour écarter la moindre référence à la foi. Alors après, énumération de la définition de ce que sont les djihadistes à l'époque, au moment où vous en parlez, selon les disciplines pratiquées. Donc, les djihadistes, on démontre sanguinaire qu'il faut mettre hors d'état de nuire, Tonnet, le criminologue. Je précise qu'aucun criminologue de l'Association française de criminologie n'a soutenu cette position. Il n'y a pas d'ambiguïté. Les djihadistes sont les produits d'un désordre mondial dont l'Occident est responsable, corrigeait le géopoliticien. Les djihadistes sont des personnalités fragiles qui ont connu trop de blessures narcissiques, diagnostiquées le psychologue. Il y en a parmi nous. Les djihadistes sont des victimes de la crise, rectifiait l'économiste. Les djihadistes sont des gamins des cités qui ont mal tourné, complétait le sociologue, il y en a aussi parmi nous. Les djihadistes sont la preuve que notre modèle d'intégration est en panne, abondait le politologue, on l'est tous un peu. Les djihadistes sont des héritiers de la vogue humanitaire, leur mobilisation est comparable à celle des étudiants qui s'engagent dans une ONG à l'autre bout du monde, faisait valoir l'anthropologue, ce n'était pas Richard Reutemann. Les djihadistes sont des jeunes qui étouffent dans une société de vieux. Ils partent se dépayser en Syrie comme d'autres deviennent cuisiniers en Australie, précisait le démographe. Les djihadistes sont les enfants d'Internet et des jeux vidéo. Ils ont abusé de Facebook et d'Assassin's Creed, glissait le spécialiste du numérique, ce que je ne suis pas. Les djihadistes sont le pur produit de notre société du spectacle. Ils sont simplement en quête de célébrité. Charlie et leur Koh-Lanta à eux, résumait le médiologue. Bref, bon, voilà. Donc, on était à cette époque-là, au moment du livre, je pense effectivement, soumis à des interventions régulières d'un certain nombre de sachants, chercheurs ou autres, relevant de toutes ces disciplines. Et bon, effectivement, le sujet du livre, c'est « Et quid du religieux là-dedans ?» Voilà, donc ça, évidemment, ça nous intéressait. J'ajoute que, grâce à Sophie, d'ailleurs, je vous ai entendu un soir, sur une semaine consacrée à Michel Foucault, rappeler à quel point Michel Foucault était très... prônait la multidisciplinarité pour comprendre les phénomènes de notre société. La deuxième chose qui m'a paru très frappante, je n'ai pas compté le nombre de fois où vous prononcez, vous écrivez ce mot dans votre livre, mais je me suis aperçu d'ailleurs que c'était pareil dans les Mao Occident trois ou quatre ans avant, c'est la question de l'émancipation. Or, nous, depuis un certain temps, on essaye de démontrer qu'il existe... en tout cas potentiellement, mais même dans la pratique, mais ça n'est pas théorisé, ça n'intéresse pas nos chercheurs, ce qu'on appelle, nous, une criminologie d'émancipation, c'est-à-dire une criminologie qui ne soit pas de contrôle social, qui ne soit pas sécuritaire, mais qui vise à la fois à émanciper les individus objets des interventions des institutions pénales, ou psychiatriques, ou de toutes les disciplines concernées par le pénal, mais aussi l'émancipation des institutions au service des sujets qui sont dans les mains de ces institutions à un moment donné. Donc, ça, il y avait une... disons une correspondance, en tout cas, voilà. Et puis, avec le temps, d'une certaine manière, ce qui s'est passé à la suite de votre livre, moi, ce qui m'est apparu très frappant, c'est que chaque fois que j'en parlais, je ressentais une espèce de conviction ou d'intuition, je ne sais pas, qui était que, par rapport à tout ce qu'on a pu lire, vous étiez, je vais peut-être vous mettre mal à l'aise, mais... enfin, c'est positif, hein, mais... non, mais vous étiez un esprit libre. Et que, alors, est-ce que ça venait du fait que vous...
Ça m'est très mal à l'aise. Franchement, je demande de retirer ça immédiatement.
Non, mais vous n'invoquiez aucune...
violence.
Vous n'invoquiez aucune discipline particulière. Et bon, et je me suis demandé d'où venait cette liberté. Et d'une certaine manière, je l'ai un peu relié. Je ne vais pas prolonger au-delà parce que c'est vous que je vais donner la parole, mais... ça prolongeait un tout petit peu à mon sens, l'intérêt de votre livre, c'est quand même que vous nous ramenez à notre histoire commune, et sans être historien, mais que cette histoire qu'on a tous vécue, moi je suis né dans les années 70, 68, j'étais là-dedans. Enfin bon, je suis né en 45, j'ai 71 ans, donc vous êtes de la génération de bien après. Mais tout ce que vous décrivez des impasses sur les sujets de l'Iran, de l'Algérie et autres, et en France, et de la foi dans la lutte des classes pour tout résoudre. Moi, je l'ai entendu, sinon vécu, en tout cas, on l'a partagé. Et votre invitation dans ce livre, c'est celle qui consiste à nous emmener à faire un parcours en arrière. Et donc, ce parcours et le recours à l'histoire, c'est ça qui m'a paru permettre de détacher un petit peu les choses, de la même manière que nous, quand on travaille avec des personnes sous main de justice, la question de leur parcours permet un peu de détacher les choses, de sortir des diagnostics, des évaluations ponctuelles de dangerosité ou autre. ça donne de l'air. Bon, donc, de la liberté, de l'air, tout ça est plutôt pas mal. Alors après, je risque, mais là je pense que Richard Ashman interviendra, quelque chose qui est beaucoup plus osé, et je suis très prudent. Je pense que nous sommes tous ici qui travaillons avec des personnes, soit qui sont susceptibles d'être condamnées, soit qui l'ont été, mais en tout cas avec cet objectif pour aller très vite, qui est celui de la réinsertion. Je pense qu'on ne peut pas ne pas être renvoyé à ce qu'il y a dans ce que vous décrivez autour du phénomène religieux, quelque chose de la quête de sens, voire de la quête d'un salut, de quelque chose qui a un petit peu à voir. Alors c'est terrible, hein, parce que moi je suis un laïc obligatoire et tout ça, mais il n'empêche que, bon, il faut travailler aussi là-dessus, sinon on rate quelque chose. Enfin, on voit bien que quand il y a des processus de réinsertion qui fonctionnent, ça renvoie à autre chose que des appareillages technocratiques, sociaux et autres, et même psychologiques, ça renvoie à quelque chose d'autre, une question du sens, oui. Et donc, il me semble que la question du religieux mis de côté, pour toute une société, ça a peut-être à voir aussi avec ce qu'on peut en dire, nous, par rapport à nos expériences, à nos pratiques et à nos espoirs. Enfin, voilà. Bon, donc voilà, je suppose que nos discutants auront des tas de choses à dire par ailleurs, sûrement plus riches que ce que je viens d'indiquer. Mais je vais tout de suite vous passer la parole en vous remerciant, parce que quand même, si je le dis tout de suite, je ne voudrais pas oublier de le faire. Quand je vous ai envoyé un mail dont je me souviens plus très bien comment je l'avais rédigé, je ne m'attendais pas du tout à ce que le rédacteur en chef du Monde des Livres accepte de venir passer 2 heures avec des gens de l'Association française de chronologie que vous ne connaissiez pas, cette association.
Vous rigolez.
Oh, bon.
Je connais que ça.
Allez, ça commence bien.
Non, mais est-ce que ça marche? Non, oui, il y a peut-être pas d'un micro.
Vous appuyez sur le bouton off,
ah oui,
là.
Ouais,
sur le dessus. Tac.
Allô? Oui. Parce que vous avez une voix qui porte incroyablement, pas moi. Non, mais c'est moi qui suis ravi d'être là, vraiment. Merci beaucoup, beaucoup. Je suis ravi de vous rencontrer. Alors, je sais pas combien de temps vous m'entendez là ou... Peut-être que j'enlève le micro, peut-être. Non, je vous remercie mille fois. Alors, combien de temps il faut que je parle? Parce que moi, j'ai plutôt envie de vous entendre et de discuter.
Non, mais comme vous voulez. Ils ont un quart d'heure chacun, donc vous en avez un aussi, puis après la salle.
D'accord, bon, j'essaie d'aller vite alors. J'ai pas préparé de topo.
Si vous prenez un peu plus.
D'accord. Merci. Bon, évidemment, il faut que je reprenne mon souffle parce que la violence des paroles qui ont été prononcées dans l'intervention ne me facilite pas la tâche. Mais bon, on va essayer de faire face quand même. Donc vraiment, merci. Je suis ravi d'être là. Je vais peut-être pas vous raconter à nouveau, vous raconter tout le livre, mais c'est vrai que vous avez commencé par dire vous avez une sensibilité, n'oubliez pas de faire fuir tout le monde en disant qu'il y avait une sensibilité particulière à l'égard de la gauche. La question n'est pas tellement d'ailleurs un parti pris politique, c'est plutôt que moi, oui, j'ai grandi, il y a toujours un aspect biographique ou dans tout ça, j'ai grandi dans un milieu de gauche, c'est une culture familiale, un héritage qui vient de loin, où justement l'héritage anticolonialiste notamment était très important, et donc ce livre n'est pas du tout pour moi un livre qui jette l'anathème ou l'opprobre de l'extérieur comme ça. L'idée est de creuser des failles ou des points de silence ou de non-dit que je porte presque physiquement, qui sont les miens aussi, dont je viens totalement. Donc c'est un livre qui n'est pas du tout ni exhaustif, qui ne parle pas de toutes les gauches, de toute l'histoire des gauches, ni de toutes les religions, etc. Mais qui essaie de prendre effectivement quelques moments comme ça, au cours desquels la gauche ou les gauches françaises notamment ont dû faire face à un retour de flamme du théologico-politique et de la spiritualité politique, comme disait Foucault, et où à chaque fois, elles ont eu beaucoup de mal à prendre au sérieux la chose ou à comprendre ce qui se passait. Donc pour moi, la question, c'est de travailler ça. D'ailleurs, tout part d'une réunion, là, ça je raconte pas ça dans le livre, mais tout part d'une petite réunion dans un cercle de gens, on était à peine plus nombreux, enfin non, on était exactement comme ce soir, je pense, qui était un cercle de gens, un cercle de réflexion comme ça, il y avait des gens de la société civile, quelques politiques, etc., des intellectuels, et c'était quelques jours après les attentats de janvier. Et donc tout le monde était évidemment sidéré et effrayé. Bon. Et la discussion est partie, et quelqu'un a commencé, la première intervention, ça a été de dire « Oui, il y a quand même un problème avec les banlieues, il n'y a pas assez de bibliothèques en banlieue. » Alors bon, je trouvais ça intéressant, donc on est parti là-dessus, c'est vrai que c'est intéressant, c'est un sujet. Et puis d'autres gens ont dit « Oui, il y a un problème avec la mémoire de l'esclavage, les jeunes se plaignent beaucoup qu'on ne parle pas assez de la mémoire de l'esclavage, etc. » Et c'est la page que vous avez lue qui a un côté, on a rigolé, c'est un côté un peu gaguesque, mais ça part de là. C'est-à-dire que c'était une soirée où on a abordé plein de thématiques possibles où chacun a avancé des causalités possibles qui étaient sociales, numériques, politiques, etc. et qui valaient tout ce qu'elles valent. Il n'est pas du tout question d'évacuer toutes ces causalités là. Mais personne, alors que des gens venaient de tuer en plein Paris au nom de Dieu, et c'est au nom d'eux, c'est une question très importante, personne n'abordait jamais ce soir-là l'aspect religieux, comme si la religion en tant que telle pouvait jamais être une causalité à part entière, comme si c'était toujours, on y reviendra, le masque d'autre chose. Donc pour moi, tout part de là. Je me dis, oh là là, quand même, il y a un truc à travailler dans notre propre culture politique. Qu'est-ce qui fait que quand des gens tuent en plein Paris au nom de Dieu, on a une espèce de compulsion, on se précipite, on se hâte d'évacuer cet aspect-là pour le rabattre toujours sur autre chose. Voilà, donc donc moi j'appelle ça le rien-avoirisme, hein, on parle d'aquabonisme dans le livre. Et c'est vrai que c'est effectivement au sommet de l'État, partout on a entendu plein de gens dire ça n'a rien à voir avec la religion. Or, justement, puisque moi je connais rien, je vous le dis tout de suite, à la criminologie, vraiment rien. Mais puisque la question du profil, par exemple, est importante, donc pour aller vite sur ces choses-là, ce qui est intéressant, c'est notre étonnement permanent. On devrait s'étonner de notre étonnement. C'est-à-dire, on dit tout le profil, et c'était le cas déjà ce soir-là à cette réunion, il était évident que les gens qui venaient de tuer étaient des paumés, des débiles, des fous, des déshérités, des misérables, etc. Mais ça pouvait toujours être que ça. Donc là, en fait, et c'est intéressant parce que régulièrement, on voit il y a le cas d'un jeune djihadiste ou d'un djihadiste qui est passé par les plus grandes universités, qui est très cultivé, etc. Et à chaque fois, on tombe des nues. Vous voyez, à chaque fois, on tombe des nues que quelqu'un puisse être djihadiste et ne pas être ignare ou ne pas être juste quelqu'un qui issue de la misère, etc. Et c'est vrai qu'une des grandes questions qui traverse le livre, c'est cette question de notre étonnement à l'égard du profil. C'est-à-dire comment à chaque fois on tombe des nues quand on voit que ce n'est pas ce qu'on croit. Et que le cheminement, puisque vous parliez de parcours, le parcours en question n'est pas toujours le parcours que l'on pense. Et donc, dans notre imaginaire, parce que finalement, ce qui m'intéresse, c'est la question de quand on veut faire face aux crimes en question, il faut faire face aussi aux croyances qui arment ces crimes, et que ces croyances ne sont pas toujours rien. Et donc pour y faire face, notamment, il faut faire face à nos propres croyances, et il y a une certaine croyance de la gauche. Et donc, par exemple, de la gauche, pas seulement, mais qui a irradié bien au-delà de la gauche, et donc par exemple, ce truc tout bête que forcément la religion ce serait toujours le passé, ce serait toujours le but témoin, un archaïsme, une but témoin de quelque chose qui est voué à disparaître avec le progrès social, avec l'émancipation justement, avec la justice, etc. Et ça, c'est quelque chose de profondément ancré qu'on voit à chaque étape, à chaque moment que j'essaie d'étudier dans le livre, la guerre d'Algérie, effectivement, l'Iran, etc. À chaque fois, on voit qu'on a toute une catégorie d'intellectuels et de politiques pour qui, évidemment, la gauche, ça peut toujours être qu'un détour, une régression ponctuelle, parce que dans le parcours, non plus là individuel des gens en question, mais de nos sociétés, la religion, forcément, c'est le passé, c'est un archaïsme qui est voué, une illusion qui est vouée à être dissipée. Alors, justement, dans le profil, les deux illusions, ou les trois illusions, peut-être, il y a deux illusions symétriques politiquement, c'est-à-dire qu'une certaine droite est toujours perçue, une droite post-nationaliste, est convaincue que les djihadistes sont toujours des immigrés ou des étrangers, etc. Ce qui est faux, puisqu'il y a un djihad de souche, comme on l'appelle parfois, et donc c'est faux. Voilà, il faut arrêter de penser que tous les djihadistes sont forcément des étrangers. Et une certaine gauche, elle, est persuadée que les djihadistes sont forcément donc des paumés, des déshérités, et c'est faux. Là aussi, il y a des gens qui viennent de très bons milieux, etc. Une certaine gauche également pense qu'ils sont toujours des ignares, je le disais tout à l'heure. Et là aussi, c'est faux. Et c'est marrant parce que, vous savez, il y avait eu un débat justement avec le sociologue Christian Baudelot, on en parlait à l'instant, juste avant de rentrer dans la salle. Dans les années 80-90, il y a eu un débat entre Alain Finkielkraut et Christian Baudelot sur l'éducation et sur l'école, qui était est-ce que le niveau bon le monte ou est-ce que le niveau baisse. Ben, je pense que sur la question des... Il faudrait rassurer Alain Finkielkraut, chez les djihadistes, le niveau monte en permanence. C'est-à-dire que ça, c'est un truc aussi, tout le temps, on disait, ils sont débiles, ils n'y connaissent rien. Encore l'autre jour, j'ai eu un débat avec Pierre Jox à l'Institut du Monde Arabe, qui a commencé, qui était, en fait, je ne devrais pas le dire, mais c'était la caricature de tout ce que je dénonce, mais que j'exhibe, j'essaye d'exhiber dans notre culture politique. Et il racontait, croyant bien faire, il racontait une conversation avec un jeune prévenu, et il rigolait, il disait ce mec était débile, il ne savait pas ce que c'était que le Coran, ça, il rigolait. Mais en fait, non. C'est-à-dire qu'il faut, là aussi, il faut essayer de se dépêtrer de ce préjugé. Il y a non seulement au sommet de l'État islamique ou de l'appareil comme ça djihadiste, mais aussi à tous les étages de cet appareil-là, des gens qui sont très forts, qui connaissent bien les choses, leurs textes sont de plus en plus élaborés, non seulement du point de vue de la forme, mais aussi du point de vue du fond. Donc là aussi, c'est un préjugé dont il faut essayer de s'extraire. Et c'est des choses intéressantes. Ce qui fait que, du point de vue du profil, puisque c'est une question, j'ai un des mots que j'ai capté dans ce que vous disiez, quelque part, on est toujours obsédé par l'origine. Voilà. Et la droite pense qu'ils sont d'origine étrangère, une certaine droite est obsédée par l'origine nationale, quelque part, des djihadistes, une certaine gauche est obsédée par l'origine sociale des djihadistes. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, oui, mais ce qui est important, c'est moins l'origine que l'horizon. Où est-ce qu'ils vont? Et en fait, le fait qu'ils sont tous que... Il n'y a pas de profil type, là pour le coup, apparemment plein de gens, y compris dans la police antiterroriste et tout, disent il n'y a plus de profil type, il faut arrêter de penser qu'il y a un profil type, il y a des constantes, on voit des choses, on peut repérer des régularités, des choses comme ça, mais il n'y a pas de profil type. Par contre, il y a un horizon commun qui est absolu, et qui est justement que tous, quelle que soit leur origine sociale, ou nationale, ou culturelle, etc., ils sont aimantés par un certain texte. Voilà, un certain texte, c'est très important. Un certain texte, un certain nombre de gestes, de récits, d'imaginaires, etc., qui sont profondément religieux. Voilà, c'est là qu'on y vient. C'est-à-dire qu'on peut toujours dire que c'est rien, que c'est que dalle, que c'est par hasard qu'ils sont... Bon, c'est la religion, mais ça pourrait être autre chose. Il se trouve que là, c'est la religion. C'est un discours qu'on entend beaucoup, mais ça pourrait être, je sais pas, le bio ou le maoïsme. Enfin, il y a plein de... Mais la question, c'est oui, mais pourquoi en ce moment, et c'est la question qui obsède, enfin qui structure, c'est l'obsession de l'angoisse principale du livre, pourquoi aujourd'hui la seule cause au nom de laquelle des milliers de jeunes Européens sont prêts à aller mourir à l'autre bout du monde, c'est cette cause-là. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. C'est pas rien d'être capable d'aller mourir à l'autre bout du monde pour une certaine cause. Et donc, il faut se demander pourquoi au cœur de cette cause, il y a ce que Derrida appelait l'allégation religieuse. Vous voyez, je me demande d'ailleurs à quand un certain nombre d'intellectuels de gauche, parce que Derrida n'était pas un spécialiste des religions ou un croyant, mais pour lui c'était évident. Et il a cette phrase que j'aime beaucoup citer, justement, qui est ce qu'il appelle la grave question du nom. Hein, il expliquait, donc c'est au milieu des années 90, c'est au moment des événements algériens, la guerre civile algérienne, il dit « Il faudra discerner ». L'islam n'est pas l'islamisme, ne jamais l'oublier, mais celui-ci s'exerce au nom de celui-là, et c'est la grave question du nom. Ne jamais traiter comme un accident la force du nom dans ce qui arrive, se fait ou se dit au nom de la religion, ici au nom de l'islam. Et pour moi, il y a deux graves questions du nom aujourd'hui qui se posent à nous, c'est au nom de quoi ces gens tuent, bon on l'a déjà dit, mais surtout, quelque part, au nom de quoi un président de la République socialiste en France, ou un ministre des Affaires étrangères comme Laurent Fabius, ou tel intellectuel, sociologue, etc., au nom de quoi tous ces gens peuvent dénier à un jeune djihadiste tout rapport à la foi dont il se réclame et au texte qu'il proclame, au texte qu'il brandit. C'est-à-dire qu'il faut quand même voir ça, c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné prendre en compte un tout petit peu, tendre l'oreille et prendre au sérieux ce qui est dit. Et ce qui est dit, c'est qu'on a un discours qui est entièrement structuré par... Bah oui, des citations du Coran, on se réclame d'anges protecteurs, de tel ou tel verset, d'anges protecteurs, de révélations prophétiques. Enfin, c'est omniprésent. C'est ça qui donne une certaine énergie et qui tend. Alors, voilà. Et alors, puisqu'on a parlé, vous avez fait allusion à la question psy. Demain, je participe à un colloque, je bosse cette nuit, j'ai pas du tout encore assez préparé. Des gens de Mêlement, l'école de Mêlement. Et c'est vrai que là aussi il y a toujours cette idée ce sont tous des fous, des délirants, etc. Et là moi j'ai lu je trouve que Gérald Bronner c'est intéressant sur ces questions parce qu'il montre bien que ce qui nous apparaît comme absurde ou comme délirant en fait est une sorte de jusqu'au boutisme de la vérité, qu'il y a un enchaînement, justement le parcours dont vous parlez c'est un cheminement comme ça intime dont chaque étape est une sorte de certitude encore renforcée, de révolte logique avec quelque chose d'extrêmement structuré en termes de rationalité, dans une certaine forme de croyance, bien sûr, mais vous savez, c'est toujours cette formule de Pascal qui disait c'est comment Dieu sensible au cœur, pas à la raison. Toute croyance apparaît toujours comme absurde à celui qui n'y croit pas. Et alors on peut toujours dire, mais ces gens sont fous, sont tarés, ils pensent qu'il y a des vierges au paradis, ils pensent que les corps des martyrs en Syrie sentent le musc, vous savez, c'est obsessionnel chez eux, dans leurs discours, dans leurs vidéos. Mais la question, c'est. c'est comment entendre ça et comment, oui, juste tendre l'oreille sans réduire ça juste à une pure pathologie. Et surtout, en termes de parcours, prendre en compte le réel du croyant. C'est-à-dire le réel du croyant, ce que Michel de Certeau appelait le leitmotiv intérieur, c'est-à-dire quelque chose dont, qui va quand même, qu'il ne faut pas réduire à rien et qui va structurer un certain rapport au monde, un certain rapport au corps, des polarisations comme ça entre le bien, le mal, et ça, c'est un, tout un rapport au monde qui est structuré et induit par tous ces textes, tous ces mots, cette communauté de gestes et de textes dans laquelle s'inscrivent les djihadistes. Et donc justement, une des choses pour moi qui est très importante, c'est la question du vêtement. Vous avez fait allusion à Michel Foucault. Michel Foucault, quand il arrive en Iran et qu'il fait ce reportage sur la révolution islamique et qu'il est frappé par la puissance autonome du spirituel, parce que c'est ça la question, c'est toujours de dire il y a une forme d'autonomie relative du religieux et du théologico-politique. Et donc, il n'y a pas que ça, mais il y a une puissance autonome, en tout cas relativement. Il est frappé par le fait que, contrairement à ce qu'il pensait, les gens qui se soulèvent ne le font pas que pour des raisons sociales ou politiques ou géopolitiques, mais qu'à un moment donné, tous ceux qui se réclament des droits de l'homme ou du marxisme sont balayés en Iran par ceux qui se réclament d'une attente messianique radicale. Et il dit, il faut donc constater que ce qui se passe, ce que j'ai sous les yeux, c'est cette spiritualité politique, c'est-à-dire cette capacité de la spiritualité à embraser la politique, ce que nous avons, nous, oublié, hein, c'est une citation célèbre de Foucault, et il dit, il faut surtout se convaincre que la religion n'est pas toujours quelque chose qui vient voiler le réel, et que parfois la religion, c'est le visage même du réel. Or, ce lexique du déguisement, du prétexte, de l'ornement est omniprésent dans les textes ou dans les discours sur le djihadisme. C'est toujours quelque chose qui vient, c'est un prétexte, ils se servent d'eux, c'est manipulé par, etc. Vous savez, Engels parlait du déguisement religieux, le lexique du déguisement ou du vêtement pour la religion est extrêmement présent. Et Foucault donc disait que c'était une chose qu'il fallait absolument déchirer. Et vous voyez qu'aujourd'hui, c'est omniprésent, notamment, par exemple, vous prenez ce petit bouquin d'Alain Badiou, qui a fait une conférence qu'il a faite, je crois, juste au lendemain des tueries du 13 novembre, qui s'appelle « Notre mal vient de plus loin ». Il dit, voilà, la religion n'est qu'un vêtement. Elle n'est aucunement le fond de l'affaire. La religion n'est qu'un vêtement. Il répète en permanence, Alain Badiou, qui est quand même quelqu'un qui a une grosse, grosse influence en France, qui est très lu à l'étranger, etc., qui passe son temps, d'ailleurs, à dire qu'il est le philosophe le plus lu et le plus traduit, le philosophe français le plus lu et le plus traduit à l'étranger, ce qui est sans doute vrai. Pour lui, et d'ailleurs je ne dis pas du tout que tout est mal chez Alain Badiou, mais pour lui, là on est vraiment dans cette espèce pour moi, d'illusion de l'illusion. C'est-à-dire que forcément la religion c'est une illusion, et surtout c'est un vêtement qui vient masquer le réel, et donc il dit ce sont des fascistes, voilà, c'est des fascistes, circuler, il n'y a rien à croire, quoi, en gros. Enfin ça c'est moi qui l'ajoute, mais c'est quelque chose de très, ça nous colle cette métaphore du vêtement. Voilà, je crois que j'étais déjà trop long. Mais toute l'idée donc est de dire de l'idée du livre, c'est pas du tout, voilà, je répète, c'est pas exhaustif, il y a mille choses, mille aspects qui ne sont pas abordés, y compris du côté des sciences humaines dans leur multiple splendeur, mais toute l'idée est de partir de cet étonnement là de prendre quelques étapes, effectivement vous l'avez dit, la guerre d'Algérie, l'Iran, etc., où à chaque fois, oui, il a été où l'éruption du religieux dans sa puissance politique a été réduite à rien, quand on regarde les discours de très près, par des gens qui souvent en ont souffert dans leur corps. Comment je parle des pieds rouges en Algérie, qui sont restés en Algérie pour soutenir le régime algérien, j'essaie d'en parler avec le maximum de tendresse, pour montrer juste toutes les couleuvres qu'ils ont dû avaler, toutes les souffrances, le fait qu'eux-mêmes ont fini par avoir des gens autour d'eux qui ont été torturés par le nouveau régime algérien, etc. Et comment ils ont dû, au début ils n'ont rien vu, puis ils n'ont rien voulu voir, etc., sur l'islamisation accélérée de l'Algérie, sur la puissance structurante de l'islam dans le programme du FLN, et comment ensuite quand ils reviennent en France, parce que souvent ils doivent revenir en France dans des conditions très difficiles, y compris matériellement, et bien ils continuent à se taire, ils prolongent ce silence religieux justement, parce qu'ils ont peur de faire le jeu de l'extrême droite et de déshonorer la cause anticolonialiste. Donc, c'est ça, pour moi, le sujet, c'est de travailler, je sais pas, il y aurait mille autres choses, et on va en discuter tous ensemble maintenant, mais c'est de travailler ce non-dit, cette espèce d'incapacité qui est la nôtre et qui est largement, dont je porte aussi moi-même, et cette espèce d'étonnement qui fait que, finalement, aujourd'hui, de la police antiterroriste, hein, quand on regarde, grâce à mes camarades du journal, j'ai pu consulter pas mal de documents, de la police antiterroriste jusqu'aux anarchistes de Nuit Debout, quelque part, en fait, il y a un point commun, c'est que tous, justement, sont dans ce lexique du religieux, en tout cas, tendent à l'être. Même si les choses ont bougé, c'est vrai que depuis le 13 novembre, je crois que les choses ont vraiment bougé. Le discours, on voit bien, de Cazeneuve a complètement, enfin, vraiment changé. Valls lui-même a bougé, même s'il était déjà un peu ailleurs au départ. Mais on voit bien que ce que j'appelle le rien-avoirisme est beaucoup plus difficile à tenir. Et qu'avec le 13 novembre, il y a eu une nécessité absolue et collective de se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Qu'est-ce qui les met en mouvement? Vous parliez de parcours. Qu'est-ce qui les met en mouvement? Et je crois que c'est pour ça que maintenant, on est dans un moment de trouble collectif et où la réflexion est beaucoup plus... Et beaucoup plus ouvert. Voilà. Merci beaucoup, j'étais déjà trop long. J'ai hâte de discuter avec vous sur tout ça.
Bon, je passe la parole tout de suite à Richard.
Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup de m'avoir invité et de m'avoir, à ce titre-là, proposé de lire ce livre que j'ai trouvé en tout point passionnant, très intéressant. Je suis ravi de pouvoir dialoguer avec vous. Alors je pourrais faire comme Alain et dire que tout est formidable, que tout m'a intéressé, que vous êtes le meilleur, et voilà, on va continuer le débat. Mais enfin, si vous m'avez demandé de venir, c'est aussi pour qu'on puisse discuter plus largement des thèses que vous avancez. Et je trouve qu'il y a un point que je trouve vraiment très, 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 très réussi, c'est le rapport que la gauche entretient à la question religieuse, et on aurait même pu aller plus loin et dire que la gauche entretient la question de la culture aussi, puisque on met ça dans le même sac, et la culture est vraiment une inconnue pour la gauche, encore que ça dépend des fois, parce que quand il s'agit de dire que la Turquie ne doit pas rentrer dans l'Europe, on se souvient qu'il y a une religion qui la porte, et on se souvient qu'il y a une culture. Donc ça dépend vraiment des cas de figure, il y a des moments où l'Occident est bien représenté par la gauche, et bien représenté avec les cultures qui ne sont pas les autres, celles qu'on ne nomme pas d'ailleurs. Alors vous avez ce terme d'ameublement, et je vais y revenir un petit peu, parce que c'est celui qui à la fois m'intéresse le plus et me pose plus de questions, parce qu'il m'intéresse le plus, et ça veut dire quoi d'être aveuglé? Pourquoi est-on aveuglé? Pourquoi s'aveugle-t-on? Et puis c'est aussi ce que vous disiez très justement au départ, hein, au fond vous-même, ayant une certaine sympathie pour ce bord-là, vous leur prêtez un aveuglement. S'agit-il d'un aveuglement ou s'agit-il d'une question politique aussi? Et moi j'aimerais aussi voir quels sont les éléments qui peuvent nous faire penser qu'il s'agit là, peut-être pas d'un aveuglement, mais vraiment d'une politique contemporaine, qui n'est pas très éloignée de celle que l'on peut voir... Les amis en parleront mieux que moi, mais autour de la façon de penser la délinquance. La délinquance est le pur résultat, exclusivement le résultat de conditions socio-économiques, dont on sait bien que statistiquement, les gens qui se trouvent dans les mêmes conditions socio-économiques deviennent plus souvent professeurs d'université que tueurs ou je ne sais trop quoi. Donc on a une dimension là qui est problématique, hein, mais qui renvoie à la nécessité d'une explication. Une explication sociale, une explication politique qui vient se conformer à l'idéal politique dont il est question et à la façon de penser l'espace politique. Alors, il n'y a pas que le religieux. En vous lisant, j'avais l'impression de relire un certain nombre de choses que j'avais pu lire publiées dans votre journal il y a longtemps, hein, sur la révolution formidable des Khmers Rouges, qui était la révolution la plus réussie au monde. Vraiment le parachèvement, alors ce Badiou dont vous parliez, qui lui n'a pas d'illusion, puisqu'on considère toujours que les Khmers Rouges, c'était quand même les seuls vrais révolutionnaires au monde, et que quelques morts, mais on en parle un peu trop de cela, parce qu'après tout, il faut bien commettre un certain nombre d'actes pour que la révolution soit posée. Donc on est là face à quelque chose où l'action politique, telle qu'elle est pensée, se combine mal avec les réalités politiques. Et je trouve que votre livre a vraiment cet avantage exceptionnel de nous mettre le doigt dessus à partir d'une question brûlante que trop souvent nous ne voulons pas analyser comme telle et nous ne voulons pas la voir. Alors, j'utilise votre langage en disant nous ne voulons pas la voir. Est-ce qu'on ne veut pas la voir ou est-ce qu'il s'agit véritablement de ne précisément pas la poser ainsi? Parce que lorsqu'on se pose la question de savoir quel est l'itinéraire de ces jeunes qui sont capables de partir en Syrie, s'engager, mourir et tuer, il y a un sous-jacent à cela qui est « cette idée est stupide ». Et il va falloir trouver les raisons sociologiques, psychologiques, pour expliquer l'impossible de ce choix. Quand bien même, la réalité nous montre que ce choix n'a rien d'impossible. N'empêche que le discours scientifique qui va se mettre en place cherche à rendre compte d'un impossible dont nous sommes les seuls à préjuger qu'il est impossible, alors que la réalité objective nous montre à quel point il est quotidiennement possible. Et ce métadiscours qui pose l'impossible et qui va nécessiter l'explication sociologique ou l'explication psychanalytique ou tout autre, est aussi une façon de disqualifier les combats qui se mènent. Et là, je trouve qu'il y a un point qui est très fort dans ce que vous amenez, c'est qu'au fond, vous plaidez pour une relégitimation de l'ennemi. Et je trouve que c'est quelque chose d'audacieux et de vraiment intéressant. Le combat de nos adversaires n'est pas fou, il est légitime, mais nous ne sommes pas d'accord. Ça change la donne de pouvoir penser les choses ainsi. Ça sonne considérablement la donne. On le retrouve à la fin de votre texte, quand vous le dites très justement, qu'au fond, il faut prendre au sérieux cette question religieuse, ce qui ne veut pas dire l'accepter avec le même sérieux. On peut s'y opposer, on peut le combattre, on peut le dénoncer, on peut dire « nous ne voulons pas de ça », mais on ne peut pas dire, et en vous lisant, on peut encore moins le dire, on ne peut pas dire « cette démarche est illégitime, dont nous trouvons la légitimité ailleurs, dans le passé de ces pauvres gens ». Sachant quand même que c'est vraiment une question franco-française, parce que on n'a pas été, par exemple, avec le terrorisme corse, se demander si les mecs qui foutaient des bombes, ils avaient des problèmes incestueux avec leurs parents. Imaginez tout ça, il y aurait eu plus de bombes encore si on avait osé dire une chose pareille sur ces gens-là. Donc, ça montre bien que la façon dont on interroge ces combattants, parce que ce sont pour certains des combattants, traduit plus la façon dont on a envie de poser le problème dans la société française aujourd'hui et de le délégitimer d'une certaine manière, que la réalité objective à laquelle on a affaire et qui de plus en plus se dévoile sous nos yeux. Alors je trouve que c'est déjà un premier point très intéressant que cette idée de relégitimer le combat d'adversaire. Ce qui ne veut pas dire être d'accord et contrairement à ce que a pu dire notre Premier ministre, comprendre, c'est pas nécessairement expliquer. Alors, comprendre, c'est les moyens.
Excusez.
C'est pareil pour lui, je me suis rendu. Mon lapsus vaut pour lui, c'est comme s'il l'avait fait lui. C'est un lapsus par transfert indirect. Si je vous garantis, ça existe. Et donc, effectivement, pour lui, il y aurait un risque de légitimation. Alors que c'est l'inverse. Légitimer le combat de l'autre, c'est aussi s'assurer qu'on va pouvoir être, non pas dans une rhétorique, mais bien dans une pratique. Au même moment, on nous parle d'un état de guerre en France où il n'y a pas de prisonniers de guerre. Vous avez des droits communs. Alors ça, je m'adresse aux magistrats qui sont là. Comment peut-on mettre dans une guerre des gens emprisonnés en tant que droit commun? Si c'était vraiment une guerre, ce serait des prisonniers de guerre protégés par la Convention de Genève, j'imagine. Enfin, je ne sais pas, je suis naïf, moi, je ne suis pas magistrat. Donc je vous pose la question, là. Alors, on voit bien, et votre texte nous l'amène, que cet aveuglement, il a une fonction politique. C'est-à-dire qu'on ne sort pas du politique, on est toujours dans le politique, d'une certaine manière, mais pas, et c'est un des chapitres qui est aussi très intéressant, pas un politique qui se définirait exclusivement par la référence marxiste. Au fond, la politique, ça a préexisté à la lutte des classes. Et aujourd'hui, la politique, ça sort de la lutte des classes. Il y a plein de façons de faire de la politique. Il n'y a pas que le modèle électoraliste, et il n'y a pas que le modèle de la lutte des classes. Et on en voit tous les jours un certain nombre de phénomènes qui apparaissent. Vous parliez de Nuit Debout, mais toutes les mobilisations auxquelles on assiste sur la place publique aujourd'hui, que ce soit les printemps arabes, que ce soit ce qui s'est passé en Turquie ou en Égypte, sont des nouvelles formes politiques qui sont tout à fait actives et qui demandent régulièrement une transformation de la société. Mais qui vont être disqualifiés par le politique actuel au nom du fait qu'ils ne sont pas des mouvements luttant contre les inégalités sociales telles qu'on les a pensées depuis un siècle et demi et pas avant. Il y a là un combat, me semble-t-il, très très puissant, qui n'est pas que le combat autour de la religion. Ce qui ne veut pas dire que la question religieuse ne soit pas importante, bien évidemment non. Mais ça montre bien qu'il y a une lutte dans notre société très forte entre ce qui relève de la politique instituée et toutes les autres formes de politique émergentes qui, sur la place publique, revendiquent, indépendamment de la question classique, soit de la lutte des classes, soit de la représentation, type représentation électorale, qui explique que finalement, prendre la place publique, prendre l'espace social, c'est un moyen légitime aujourd'hui. Alors une fois qu'on a dit ça, on se dirait, mais pourquoi parle-t-on de ça dans un débat comme le vôtre sur, on travaille sur la criminologie? Parce qu'à trop légitimer ce qui se font, on va oublier qu'il y a des crimes qui se font. Et c'est peut-être le deuxième grand mérite aussi de votre travail, il y en a plein d'autres, mais c'est ceux qui m'ont intéressé particulièrement, c'est qu'au fond, vous nous rappelez vraiment qu'au nom de la religion, on peut tuer. Et que voilà, la religion est un élément qui peut aussi faire en sorte qu'on peut tuer. C'est important de le savoir, c'est important de le rappeler, et que l'islam est tout à fait capable de produire des discours qui vont amener des gens à se tuer. Ou à tuer. Mais enfin, on le savait avant, l'islamisme, on le savait aussi avec la partition de l'Inde, entre les hindouistes et les musulmans. Et d'ailleurs, les hindouistes n'étaient pas en reste. L'hindouisme, autant que l'islam, est susceptible de produire des meurtres, et des meurtres de masse. Et il n'y a pas que ces deux religions-là, toutes, mais pas seulement les religions. On se rend compte qu'au fond, et c'est là le plus triste peut-être, c'est qu'au fond, les hommes n'ont pas besoin de beaucoup, beaucoup de motifs particuliers pour tuer. Presque tous les motifs idéologiques sont susceptibles de faire l'affaire dès lors qu'il s'agit de mettre en place des politiques de meurtre de masse. Alors ça, ça nous interroge particulièrement. Ça ne veut pas dire que ça n'a rien à voir, comme vous le dites très justement. Ça a quelque chose à voir. J'aime bien le terme des psychanalystes parfois pour dire, il y en a dans la salle, ils me contrediront peut-être, c'est, l'expression est un peu rhétorique, mais je l'aime bien quand même, c'est pas sans lien. C'est pas sans lien avec le religieux, ça veut dire qu'on ne met pas en avant immédiatement la question de la causalité. On dit que c'est pris dedans. Dire qu'effectivement, le djihadisme et l'islam n'ont strictement rien à voir, c'est une erreur. Dire que c'est causal, c'est absurde. C'est pas ce que vous dites. Alors, au fond, moi, je préfère cette expression de « ce n'est pas sans lien » pour mettre les gens au travail, d'aller comprendre quel est ce lien, mais en même temps de se dire « ce n'est pas forcément le seul qu'il faille aller explorer, sûrement pas celui sur lequel il faudrait faire l'impasse non plus. » Deux cas de figure différents se posent à ce moment-là, de ceux qui partent et de ceux qui reviennent, de ceux qui ont subi une militarisation et de ceux qui n'ont pas subi une militarisation, ceux qui ont été impliqués dans des crimes de masse et ceux qui n'ont pas été impliqués dans des crimes de masse. Et là, effectivement, l'auditoire que vous avez sera intéressé, je pense, à cette question, parce que c'est pas pareil d'être sympathisant. Peut-être, on voit en ce moment, hein, ce soir, il y a des gens qui vont être sympathisants au football, ce ne seront pas des joueurs exceptionnels. Et on ne peut pas dire que la solution de, y a une solution de continuité entre le joueur qui va jouer ce soir et tous les sympathisants. C'est deux choses différentes. Les sympathisants du djihadisme ne sont pas ceux que l'on retrouve criminels de masse, comme ceux qui sont revenus le 13 novembre. Moi, j'ai tendance à penser que ce sont des criminels de masse. C'est-à-dire qu'ils produisent la même chose que les criminels de masse, au sens où, en tant qu'anthropologue, j'essaie d'analyser la façon dont les meurtres de masse, techniquement, se produisent. Comment on fait? Qu'est-ce qui est mis en place? Quelle est la technicité? Qui permet, là, de faire une nouvelle séparation, et de ne pas dire, c'est sans rapport avec le religieux, mais c'est en rapport avec ce que j'appelle le génocidaire, c'est-à-dire avec toutes les autres formes de mise d'administration vers la mort. C'est-à-dire qu'il y a des régimes qui produisent une administration vers la mort qui non seulement le tue, mais en plus l'ensemble de l'organisation est posée ainsi. Et alors, ayant reconverti un peu mes pratiques, parce qu'à l'origine je suis spécialiste dans le génocide cambodgien et j'ai suivi des réfugiés cambodgiens depuis des années, mais le flot se tarit un peu depuis quelques années, et donc c'est les Syriens, les Afghans qui prennent la place. Et étonnamment, je retrouve dans les discours exactement les mêmes choses. Ceux qui ont vécu à Mossoul, sous l'État islamique, racontent les mêmes choses que ce que l'on peut entendre dans un régime génocidaire. Ça ne veut pas dire que c'est pareil, ça veut simplement dire que dans ces traits-là, la façon dont les mises à mort sont posées, la façon dont les gens sont tenus en laisse par cette implantation de la mort et la façon dont les corps sont traités, traduit quelque chose qui a à voir avec tous ces crimes de masse qu'on a pu voir. Il me semble très important de distinguer les uns et les autres pour aussi revenir à une question que vous avez posée depuis le début et qui se pose, c'est celle des caractères prédictifs. Et là, je sais que je vais me faire des ennemis dans cette salle, je pense qu'il faut abandonner ce paradigme. Le paradigme du caractère prédictif n'est pas le plus intéressant. Il est intéressant dans l'après-coup, mais dans l'avant-coup, il est très problématique. Parce que quand on regarde ces itinéraires de ces jeunes qui vont en Syrie, qui après deviennent tueurs de masse, il est vrai que certains ont le même profil que plein d'autres qui se sont arrêtés en chemin. Et donc ils se sont arrêtés en chemin les uns et les autres. Ils n'ont pas été jusqu'au bout, ils ont été jusqu'à la frontière, puis ils sont venus, ils sont allés combattre, puis ils sont revenus, et puis il y en a d'autres qui vont plus loin. Ces traits distinctifs-là sont les traits qui nous posent le plus de questions. La similitude d'un commun trop trompeur est pour le coup très problématique. Donc il me semble qu'il y a deux thèses dans votre ouvrage que j'ai trouvé vraiment encore une fois très intéressante. La première, c'est celle du rapport politique que la France entretient avec tout ce qu'elle ne veut pas intégrer dans une dimension politique, et tout particulièrement le religieux, et tout particulièrement la question de l'islam aujourd'hui, et de ne pas reconnaître à ce danger qui est face à nous la légitimité d'un combat ennemi. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, qui est de s'interroger quand même sur ce que notre société peut produire autrement pour quand même adresser la question, vous le faites depuis le début, de l'idéal. De l'idéal et de l'optimisme. On le voit, et à un moment vous moquez un peu la déradicalisation, vous avez raison. Quand on imagine que des gens sont partis à l'autre bout du monde pour trouver l'idéal jusqu'au sacrifice et qu'on leur dit non, maintenant il faut rentrer, vous allez oublier tous ces trucs-là et vous allez vivre avec le RSA et soyez heureux, pareil pour imaginer qu'ils vont pouvoir accepter de choses pareilles. La désidéalisation de la sorte est totalement impossible. Voilà, je vous remercie vraiment de ce livre que vous m'avez permis de travailler.
Ben Denis,
merci.
Le droit, la loi.
Oui, Alain Blanc.